Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je suis Madame Taveau, présidente de l'association ACEPIA, Association Sclérose en Plaques, Initiative Action. Donc, ce soir, l'association est contente de vous accueillir tous pour cette conférence sur la sclérose en plaques. Voilà. Donc, on a eu le privilège, le plaisir que le professeur No accepte de venir vous parler de la sclérose en plaques, donc des avancées réelles de la sclérose en plaques. Il sera accompagné de Madame Moineau-Nathalie, qui est infirmière référente CEP au CHU de Poitiers, elle aussi. Et elle vous parlera de l'accompagnement des patients de la sclérose en plaques. Ensuite, vous pourrez poser vos questions, si vous en avez, à la fin de la conférence. Ceux qui sont dans la salle à côté pourront faire passer leurs questions par écrit, on nous les transmet. On se retrouve après, autour d'un verre. Et puis, si vous avez des questions à poser sur l'association, ben, on sera présente. Et on répondra à toutes vos questions. Voilà. Passez une bonne soirée. Merci.
Merci à Madame Taveau, merci à l'association ACEPIA et merci à l'Espace Mendès France de nous accueillir ce soir et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Et je dis bonjour alors au planétarium, c'est ça qui est en face. J'espère qu'ils vont bien nous entendre et que les diapositives seront visibles. Alors effectivement, on m'a demandé de parler de la sclérose en plaques et des avancées thérapeutiques. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, car il est bien évident que vous et nous attendons beaucoup des années futures pour le traitement de cette maladie qui est extrêmement fréquente. Alors on va voir un petit peu plusieurs points pour voir tout ce qu'on connaît maintenant sur cette maladie-là et pas seulement sur les traitements. Alors déjà un point important, je vais m'asseoir pour éviter de gêner la vision là. Ce qui est très important, c'est de comprendre et de savoir ce qu'est la sclérose en plaques et qu'est-ce qu'elle va toucher comme élément de notre système nerveux. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire qui va toucher ce qu'on appelle le système nerveux central. Et le système nerveux central, c'est ce qui comporte ce qu'on appelle les nerfs optiques, c'est-à-dire les nerfs de la vision. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de patients vont souffrir d'un seul coup d'une baisse de la vue. La sclérose en plaques va pouvoir toucher également le cerveau dans ce qu'on appelle la substance blanche, c'est-à-dire ce qu'il y a en profondeur du cerveau. La surface de notre cerveau, c'est le cortex, c'est la substance grise, et bien c'est en dessous du cortex. Ça va pouvoir toucher le tronc cérébral, qui est une zone de transition entre la commande du cerveau et la moelle épinière où va s'effectuer, d'où va partir toutes les actions. Donc ça peut toucher ce qu'on appelle le tronc cérébral, également le cervelet, qui est ici l'organe de l'équilibre, expliquant ainsi que beaucoup de patients ont des troubles de l'équilibre et des sensations vertigineuses. Et puis ça va toucher la moelle épinière. Alors la moelle épinière, c'est quelque chose de tout petit, hein, c'est gros comme un doigt, et donc on imagine très bien qu'une plaque à cet endroit-là peut entraîner des problèmes importants, notamment au niveau de la marche ou au niveau de la sensibilité ou enfin de la fonction vésicale. Ce qui caractérise malheureusement la sclérose en plaques, c'est il y a un S à plaque, c'est-à-dire qu'il y a des plaques multiples qui vont être disséminées dans tous les endroits dont j'ai parlé. Et c'est l'apparition d'une nouvelle plaque qui pourra entraîner l'apparition de nouveaux symptômes. Et enfin, le dernier point de la définition de cette sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie qui est évolutive dans le temps et dans l'espace. Je vais expliquer ces deux mots. Évolutive dans le temps, beaucoup d'entre vous le savent, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs poussées dans la vie ou on peut avoir une progression d'un handicap. Donc c'est l'évolution dans le temps. Et le mot évolution dans l'espace, ça signifie que ça va toucher un endroit et puis ça peut toucher un autre endroit, c'est-à-dire un autre endroit de l'espace de notre système nerveux central. Et le but de tous les traitements dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est bien évidemment de casser et cette évolution dans le temps et cette évolution dans l'espace. Alors ça, c'est un planisphère pour vous montrer un petit peu la fréquence de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui va toucher le monde entier. Et un point assez caractéristique dans cette maladie, c'est que, comme vous le voyez très bien, quand c'est blanc, c'est qu'on ne sait pas. Quand c'est vert, c'est que c'est une maladie à faible fréquence. Quand c'est orange, c'est une maladie à plus forte fréquence. Et quand c'est rose, c'est une maladie à très forte fréquence. Et vous remarquerez de manière très simple que finalement, plus on s'éloigne de l'équateur et plus on va vers l'hémisphère nord, plus la fréquence de cette maladie-là va augmenter. Autrement dit, elle sera de faible fréquence en Afrique du Nord. Elle sera de fréquence un peu plus importante dans l'Europe du Sud. Et elle sera extrêmement fréquente dans l'Europe du Nord, notamment ici Norvège, Suède et Finlande, et comme vous le voyez ici, en Amérique du Nord, Canada. Alors, pourquoi ? Eh bien, on n'en sait rien, mais je vais quand même vous donner quelques pistes ou quelques hypothèses. Alors, cette répartition nord-sud, avec une augmentation plus on va vers l'hémisphère nord, vous le voyez ici, se retrouve en France. C'est-à-dire que la fréquence de la maladie est moins importante dans le sud qu'elle ne l'est dans le nord. Et il y a ce qu'on appelle un gradient sud-est, c'est-à-dire qu'elle est moins fréquente dans le sud-ouest et plus fréquente dans le nord-ouest, avec presque une fois et demie supérieure dans les régions Champagne-Ardenne, Lorraine, versus par exemple notre région Poitou-Charentes. Alors c'est une maladie qui, maintenant on va rester sur la France, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente puisque vous voyez qu'on estime qu'un Français sur 1000 est touché par cette maladie-là, ce qui représente, nous sommes 65 millions en France, donc on estime globalement qu'il y a à peu près entre 60 et 80 000 personnes en France qui sont touchées par cette maladie. Et c'est un chiffre qui est un peu plus effrayant, c'est de savoir qu'il y a 5 nouveaux cas par jour dans notre pays. Alors, la première question qu'on se pose et que vous nous posez quand on vous apprend le diagnostic, c'est finalement à quoi c'est dû, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que je suis à risque vis-à-vis de ma famille. Donc je vais essayer de répondre à ces questions de manière extrêmement simple. Vous avez vu qu'il existait un gradient sud-nord avec une moindre fréquence en Afrique du Nord que, par exemple, dans les pays d'Europe du Nord. Eh bien, une des grosses hypothèses réside au niveau de l'ensoleillement. C'est-à-dire que les pays les plus ensoleillés feraient moins de sclérose en plaques que les pays les moins ensoleillés. Et ceci a été largement démontré. Et donc, il paraît maintenant certain qu'il y a une notion d'exposition à la lumière et d'exposition au soleil par le biais, tout simplement, que c'est grâce au soleil qu'on peut fabriquer la vitamine D. Et à l'heure actuelle, les patients qui ont une sclérose en plaques pourraient souffrir d'une carence en vitamine D. Et c'est une des pistes de recherche, c'est-à-dire que certains patients, je le dirai tout à l'heure, font partie de protocoles de traitement par vitamine D. Donc, géographique. Deuxième hypothèse, c'est une hypothèse virale. Donc, vous voyez tout de suite le rapport aussi avec certains pays où il y a peut-être plus d'infections virales que d'autres. Normalement, lorsque nous faisons une infection virale, eh bien, soit on n'en a aucun signe, ou soit on a des signes comme une fièvre, une toux, etc. Et puis, une fois que les choses se sont terminées, eh bien, on n'en entend plus parler. Eh bien, le problème chez certains patients, c'est qu'on va avoir la toux, la fièvre, et ceci va déclencher de manière anormale au niveau de notre corps des réactions de défense. Et au lieu de se défendre contre les virus, eh bien, on va développer des anticorps contre soi-même. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va développer des anticorps contre son système nerveux. Et tout cela déclenché par une agression virale. Troisième hypothèse, c'est qu'il existe un terrain génétique dans cette maladie. Enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Terrain génétique ne signifie pas que c'est une maladie héréditaire. Ça signifie simplement qu'il existe une prédisposition génétique et que lorsque l'on a un membre de sa famille qui est touché par cette maladie-là, eh bien, les descendants ou ce qu'on appelle le premier degré ont un peu plus de risque d'avoir cette maladie-là qu'une population standard. Alors, vous allez comprendre sur ces chiffres-là, la fréquence de la maladie est de 0,1% dans la population. Hein, on a vu que c'était 1 pour 1000, donc 0,1%. Eh bien, on a un parent qui est touché, un père ou une mère qui est touché, eh bien, la prévalence passe à 2,7%. Ce qui veut dire que le risque est multiplié par 20, mais c'est un risque infime. Hein, ça reste un risque infime. Le risque le plus fort se situant dans la fratrie. Alors, dans toutes ces familles-là, je suis désolé, il y a certaines diapositives qui sont en anglais, mais on comprendra très facilement. Si c'était une maladie héréditaire complète, il est bien évident que si on avait un frère ou une sœur jumelle, vrai jumeau, eh bien, le patrimoine génétique ayant été partagé étant le même dans les deux enfants, si l'un est malade, l'autre doit avoir la même maladie. C'est clair, ça ? Eh bien, lorsqu'il y a deux vrais jumeaux, ici, c'est ce qu'on appelle des jumeaux monozygotes, si un des jumeaux a la maladie, l'autre a un risque de 30% de l'avoir. Ça montre bien que la part génétique dans cette maladie-là est de 30% maximum, mais qu'il y a 70% qui ne soient pas génétiques. Alors, ces 70%, c'est la réaction à une infection, c'est l'ensoleillement, c'est l'alimentation, c'est tout un tas de facteurs qu'on ne connaît pas encore. Connaître la cause d'une maladie, c'est important, mais ça n'est pas essentiel. Il y a un certain nombre de maladies dont on connaît la cause et qu'on ne sait pas bien traiter, et inversement, d'autres maladies dont on ne connaît pas la cause et qu'on sait parfaitement traiter. Ça veut donc dire que même si on ne connaît pas la cause, on pourra trouver le traitement. Je vous donne un exemple. On connaît parfaitement comment se passe un cancer, la cause du cancer, et pour autant, certains sont difficiles à traiter. On ne connaît pas la cause de l'hypertension artérielle, on ne connaît pas la cause de l'hypercholestérolémie, et pour autant, on sait parfaitement traiter ces maladies-là. Mais connaître la cause, c'est quand même un élément important, et la recherche à ce niveau-là évolue. Alors ici, vous avez une photo de votre système nerveux central, et tout ce que vous voyez ici, ce sont les cellules nerveuses qu'on appelle les neurones, avec l'usine qui est ici, qu'on appelle le corps de la cellule, et puis ici, ce sont les bras, les prolongements, qui vont aller s'articuler avec d'autres cellules, et c'est grâce à ça que que l'information se fait, que la transmission de l'influx peut se faire. Et vous voyez ici, par exemple, ce qu'on appelle une articulation entre deux neurones, une synapse, et les ordres, comme ça, cheminent à travers un neurone, passent à un autre neurone via des synapses. Vous avez ici représenté la cellule nerveuse, le neurone, avec ici l'usine, le corps cellulaire, et puis ici les voies de transmission. Et ces voies de transmission comportent à la fois des câbles électriques, ici, qu'on appelle l'axone, et autour de ces câbles électriques, il y a une sorte de revêtement, de couverture qui est la myéline. Et vous savez tous que la sclérose en plaques, c'est une maladie de la myéline et que cette maladie-là va entraîner des lésions au niveau de la myéline. Donc vous avez ici toujours le même neurone avec ici la myéline et on voit que cette myéline est attaquée par nos propres constituants, c'est-à-dire des cellules de notre sang qu'on appelle soit les lymphocytes T, soit les monocytes, peu importe. Et le but des traitements dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est d'empêcher ces cellules tueuses, ces lymphocytes T, ces monocytes, d'empêcher d'attaquer la myéline. Alors cette maladie-là va toucher l'enveloppe, la myéline, mais va également toucher toutes les fibres nerveuses que l'on appelle l'axone. Alors nous, par nos examens complémentaires, on pourra parfaitement voir quelle est l'atteinte de l'axone, c'est important, de l'atteinte de la myéline. Je ne détaillerai pas, mais c'est pour nous très important sur le plan du traitement. Et par exemple ici, on voit sur une IRM là, qui représente la tête, on voit ici des sortes de petits trous noirs qui vont représenter ce qu'on appelle l'atteinte de l'axone. Mais demain, ou même déjà aujourd'hui, par des radiologies très spécifiques. On peut même voir les atteintes de l'axone, on peut compter les fibres. Vous avez ici, ça c'est sur une personne humaine, vous avez ici les fibres de la vision, et puis ces fibres de la vision, c'est-à-dire les nerfs optiques. Ici, c'est le croisement qu'on appelle le chiasma. Et puis, toutes ces fibres optiques vont à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital, où est intégrée la vision. Mes yeux servent à voir, mon cerveau sert à interpréter. Et donc, on voit très bien ici, vous voyez, par exemple, on voit ici très bien, grâce à certaines images, toutes les fibres du cerveau qui servent à certaines fonctions, et on peut quantifier comme cela la perte de ces axones. Le deuxième point important que j'ai donné dans la définition, c'est l'inflammation. Alors, l'inflammation est quelque chose de très important parce que c'est certainement la phase qui est la plus accessible au traitement. Je vous donne un exemple ici où c'est la même personne, où il y a deux IRM, mais avec des filtres différents. Il faut s'imaginer que l'IRM nous permet, c'est comme un appareil photo, on peut mettre différents filtres et qui vont nous permettre de voir différents types d'atteintes. Et on voit ici, chez cette personne, qu'il y a trois plaques, que vous voyez très bien ici, et lorsque l'on injecte le produit, on ne voit plus ces deux plaques, mais par contre, on voit parfaitement celle-ci. Donc on sait que pour que le produit se retrouve comme ça dans le cerveau, c'est forcément une plaque fraîche, c'est-à-dire une plaque qui date de moins de 3 mois. Ça veut donc dire que si chez quelqu'un on fait une IRM et que l'on ne voit pas de ce qu'on appelle de prise de gadolinium, c'est que la maladie n'est pas active. Si par contre on voit ces nouvelles lésions, ces prises de gadolinium, ça signifie que la maladie est active et donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on la traite si elle n'est pas traitée, et si elle est traitée, eh bien ça prouve que le traitement n'est pas forcément efficace et qu'il faut en changer. Donc voilà les premières données sur les causes, la fréquence et les anomalies qu'on peut observer au niveau de l'IRM. Si maintenant on dit quelques mots sur la clinique, c'est une maladie qui va toucher beaucoup plus la femme que l'homme. On ne sait pas pourquoi, mais vous voyez que globalement, il y a 3 femmes qui sont touchées pour un homme atteint. Et le début de cette maladie se situe dans l'immense majorité des cas. Vous voyez ici, c'est les tranches d'âge de début de la maladie, 0-20 ans, 20-30 ans, 30-40 ans, etc. Et donc, vous voyez que pour plus des 2/3 des patients, la maladie va débuter entre 20 et 40 ans. Donc, c'est assurément une maladie de la femme et une maladie de la femme jeune. Alors, comment nous, neurologues, on va en faire le diagnostic ou les médecins généralistes? Alors, il y a différents types de signes qui vont nous attirer l'attention. Je les ai juste listés ici. Ces signes peuvent être isolés, ça peut être un seul signe, ou 2 peuvent survenir en même temps. C'est ce que j'ai voulu mettre en mettant, ça peut être n'importe quel signe, donc c'est varié, ça peut être un signe unique ou plusieurs signes. Un des signes les plus fréquents, ce sont les signes visuels, c'est ce qu'on appelle la névrite optique rétrobulbaire, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est quelqu'un qui est en pleine santé et qui va ne plus voir d'un œil en l'espace de quelques heures. La perte de la vue sera totale et généralement sera douloureuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la névrite optique rétrobulbaire et c'est tout simplement lié au fait qu'il y a une plaque sur le nerf de la vue, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors généralement, ça récupère à 100%. Et le diagnostic pour nous est extrêmement facile. Quand quelqu'un de jeune, et surtout si c'est une femme, perd la vue d'un œil, il y a 9 chances sur 10 ou 9 risques sur 10 ou même plus que ce soit une sclérose en plaques. Le deuxième signe qui est encore plus fréquent, c'est les signes sensitifs, c'est-à-dire des troubles sensitifs. Alors les troubles sensitifs, c'est quelque chose de très difficile pour nous parce que ça peut revêtir n'importe quel aspect. Ça peut être, par exemple, avoir des fourmillements dans une main, avoir des fourmillements dans un bras, avoir des fourmillements dans une jambe, moins bien sentir une partie du thorax quand on se lave, avoir l'impression d'avoir une sorte de toile d'araignée sur la figure. Autrement dit, ce sont des troubles qui sont extrêmement modestes, peu gênants, qui n'attirent pas forcément l'attention de la personne qui les a, ou inversement, on peut tous dire qu'on a eu des manifestations de sclérose en plaques dans notre vie, puisqu'on a tous eu des fourmillements, tous eu des gènes sensitifs comme ça, et il est bien évident qu'on ne peut pas faire d'IRM à tout un chacun, il faut quand même un certain nombre de faisceaux d'arguments. Et beaucoup de gens me disent, mon médecin généraliste est passé à côté parce que j'ai eu cette manifestation-là il y a 6 mois, certes, mais le diagnostic en est difficile à cette phase-là. Les signes moteurs, vous voyez, sont très fréquents aussi. Les signes moteurs, c'est une gêne dans un bras, une gêne dans une jambe, le plus souvent c'est la jambe, ou les deux jambes, et la personne va ressentir des difficultés à marcher, va pouvoir marcher pendant 500 mètres, 1 km, et puis au bout d'un certain temps, va ne plus sentir de force dans ses jambes, ça va l'obliger à s'arrêter, et la batterie sera rechargée, il pourra repartir. Donc ça, c'est un bon signe pour nous d'atteinte type sclérose en plaques. Je ne parlerai pas du tronc cérébral, et puis les troubles sphinctériens sont quelque chose d'assez fréquent. Troubles sphinctériens, c'est par exemple perte d'urine ou avoir envie d'aller aux toilettes très rapidement, ne pas pouvoir se retenir, et une fois qu'on est aux toilettes, c'est faire quelques gouttes. Alors, c'est bloqué. Non, c'est bon. Je suis désolé, je vous montre des images, mais c'est pour vous montrer qu'on est énormément aidé par l'imagerie. Ici, si je prends juste cette image-là, c'est une jeune fille de 14 ans qui dit ne plus voir de l'œil gauche. Et alors, je ne sais pas si on voit bien, oui, on voit très bien ici. Là, c'est un nerf optique, on le voit ici, c'est le nerf optique droit. Ici, c'est le nerf optique gauche. Et vous voyez sur le nerf optique gauche, ici, une espèce de petite tache blanche. Et donc, ça, c'est la plaque. Donc, vous voyez que sur l'IRM, on peut voir une plaque inflammatoire sur le nerf optique. Là, c'est une vue de face. On a coupé la personne verticalement comme ça. Il y a le nerf optique ici, l'autre là, et vous voyez que le nerf optique, il y a une plaque ici. Donc rien que sur l'IRM, on peut dire c'est une névrite optique, une atteinte du nerf optique, et c'est une inflammation type sclérose en plaques. Je vais mettre le micro. Là, c'est une jeune femme. Hein. J'ai deux, trois vidéos. Quatre vidéos, c'est des gens qui, évidemment, ont donné leur autorisation d'être pris en film. Donc ça, c'est une jeune femme qui va nous raconter un signe caractéristique. Elle ne veut plus rien dire maintenant. Voilà.
Dès que je baissais le cou, j'avais des électricités qui passaient dans les jambes et ça faisait des bourdonnements un peu dans les oreilles.
Oui, il y avait de l'électricité dans les jambes.
Dans les jambes. En fait, ça attaquait le bassin et les jambes.
D'accord. Uniquement quand vous penchez la tête.
Oui, et c'était assez intense quand même.
D'accord, et ça a duré.
Ça a duré 3 semaines à peu près.
Voilà, donc là c'est une jeune fille qui dit que dès lors qu'elle baissait la tête, elle avait des décharges électriques dans les bras et dans les jambes. Beaucoup d'entre vous qui sont atteints par cette maladie l'ont ressenti, c'est ce qu'on appelle le signe de l'ermite. C'est que tout simplement quand on baisse la tête, la moelle épinière s'étend, et donc comme ça étend, ça étire l'arrière, et en étirant l'arrière, si on a une petite plaque à cet endroit-là, eh bien ça provoque une décharge électrique, comme quand on se cogne par exemple le nerf. Pour ça, je vais passer. Un des signes de cette maladie, ce sont des tremblements comme ça. Voilà, je coupe le son. Et vous allez voir, cette dame est très handicapée par un tremblement. Donc, je pense que certains d'entre vous ont un tremblement comme ça. C'est-à-dire que ça ne tremble pas quand elle ne fait rien, mais dès lors qu'elle prend quelque chose, les bras sont agités. Voilà, donc ça aussi, c'est caractéristique de la maladie. Donc, c'est tout ce que je dirais sur les signes cliniques. Dernier point, avant d'aborder le traitement, c'est au niveau des examens complémentaires. Comment, nous, neurologues, on fait le diagnostic de sclérose en plaques? Alors, on a deux examens. L'un est la ponction lombaire. Maintenant, on n'a pas forcément besoin de ponction lombaire pour faire le diagnostic. Mais on va se servir de cette fameuse IRM de la tête et de la moelle épinière pour retrouver et confirmer la maladie en voyant les plaques. Alors, je vais montrer un certain nombre de photos où on voit ici, donc c'est ce qu'on appelle une IRM, c'est une vue aérienne, le dessus de la tête, et vous voyez ici, ce sont des plaques qui sont tout à fait typiques de sclérose en plaques et qui nous vont nous permettre d'affirmer formellement le diagnostic de sclérose en plaques. Alors là, vous ne voyez pas forcément, mais c'est plusieurs coupes IRM. Là, on part du bas de la tête et puis on monte progressivement jusqu'au sommet de la tête. Et vous voyez que chez cette personne-là, on peut compter les plaques. Il y en a une ici, là c'est la même, là c'est la même, là il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là, etc. On va monter une là, une là, une là, une là, une là, etc. Je ne vais pas tout compter, mais cette personne manifestement a au moins une quinzaine de plaques, donc on peut parfaitement affirmer la sclérose en plaques sur une IRM comme ça. Et un point très important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, lorsque l'on injecte le gadolinium, le produit de contraste, eh bien, on voit ici chez cette personne qu'il existe un grand nombre de plaques actives. Donc on peut dire que chez cette dame-là, c'est une maladie extrêmement active, puisque vous voyez qu'il y a au moins 10 plaques qui prennent le gadolinium. Ça prouve que chez des personnes comme ça, il faut traiter en urgence. On n'a pas le droit d'attendre. Je vais passer un peu sur ces IRM qui sont finalement sans intérêt au niveau de la tête. Alors, on peut avoir la même chose au niveau de la moelle épinière. Vous vous rappelez mon petit schéma de départ. Vous avez ici la moelle épinière et on voit ici une tache blanche, donc qui est une plaque. Il y en a une autre ici. Il y en a une ici, une autre tache blanche. Et on imagine très bien que quand cette personne-là, donc là, vous voyez, ça c'est la trachée avec la langue ici, quand elle plie la tête en avant, eh bien, la plaque qui est ici va être irritée par étirement et ça va provoquer les décharges dans les jambes. Je vais passer là. Alors, un point qui est très très important, c'est que lorsque vous voyez votre médecin, votre neurologue, et qu'on vous dit que vous avez une sclérose en plaques, il est très important d'en connaître la classification parce que de la classification va dépendre le traitement. Beaucoup de gens me disent, mais moi, mon voisin, il a tel traitement, ça marche bien, ou moi, mon voisin, il a tel traitement et ça ne marche pas. Eh bien, ça va dépendre fortement de la forme. Alors, je vais vous expliquer ce schéma qui est très simple à comprendre. Il y a ce qu'on appelle des formes rémitantes. Vous voyez, c'est 60%, deux tiers des gens. Les formes rémitantes, c'est on fait une poussée, on récupère complètement, et puis on a retrouvé son état antérieur. On fait une deuxième poussée, on récupère complètement, etc. Malheureusement, quelquefois, on fait une poussée, on récupère complètement, on fait une poussée, on récupère complètement, on fait une poussée et on ne récupère pas complètement. Donc, il est bien évident, et puis on garde un handicap. Il est bien évident qu'il va falloir donner des traitements de plus en plus tôt pour empêcher qu'on laisse une poussée qui laisse un handicap. Ça, c'est ce qu'on appelle les formes rémitantes. Ce sont les formes qui sont les plus accessibles au traitement aujourd'hui. Deuxième possibilités qui sont les formes rémitantes secondairement progressives. Pourquoi ça porte ce nom-là ? Eh bien, d'abord, on a des poussées, comme ici, et puis après, il n'y a plus de poussées, et puis malheureusement, il apparaît un handicap qui va progressivement croissant. Par exemple, j'ai perdu la vue d'un œil, mais je l'ai récupéré, j'ai eu des fourmillements dans une jambe, mais j'ai tout récupéré, et puis il ne se passe rien, puis un beau jour, j'ai une gêne dans une jambe et puis ça va progressivement en s'accentuant et je peux marcher de moins en moins et de moins en moins longtemps et de moins en moins loin. Donc là, c'est ce qu'on appelle les formes secondairement progressives, un quart. Et puis, moins de 10%, c'est des formes qui sont progressives d'emblée. Il n'y a pas de poussée, mais c'est un handicap qui va croissant. C'est des formes moins fréquentes qui sont de traitement plus difficile. Je passe là-dessus. Alors, un des points importants, c'est la vie quotidienne. On s'aperçoit que dans la vie quotidienne, il y a un certain nombre de choses qui vont, pardonnez-moi l'expression, mais bouffer la vie. Et j'aimerais développer comme ça certains points. Alors, la chaleur. La chaleur, tout simplement, lorsque la température monte, la transmission à travers la myéline se fait moins rapidement. Donc, chez des gens qui ont une myéline abîmée, ça se fera encore moins rapidement et ça fera apparaître des signes. Ça peut être une chaleur extérieure, il fait 40 degrés dehors, ça peut être une chaleur interne, j'ai de la fièvre. Et un certain nombre de personnes nous disent, j'ai fait une poussée. Non, ils n'ont pas fait de poussée. Ils ont fait une infection urinaire qui a fait monter la température et du coup, ils ont moins bien marché. Ce n'est pas une poussée. Il faut traiter l'infection urinaire. Il y a des gens chez lesquels la température ou l'augmentation de température ne fait rien. Mais néanmoins, il y a plus de poussées l'été, il y a plus de gêne motrice l'été. Une autre question qu'on nous pose fréquemment, c'est, comme ça touche des femmes jeunes, beaucoup d'entre elles, et c'est normal, souhaitent avoir une grossesse. Alors, CEP et grossesse, c'est maintenant quelque chose qui est parfaitement connu. On sait très bien que le handicap ne sera pas accéléré par le fait d'avoir des enfants, donc il n'y a aucune raison d'interdire des grossesses à ces femmes-là, ça c'est très très important. On sait que lorsque les femmes seront enceintes, elles ont même moins de risques de faire une poussée. Autrement dit, la grossesse va les protéger. Alors, ce n'est pas un traitement jusqu'à preuve du contraire, mais actuellement, il y a des recherches sur des traitements hormonaux dans la sclérose en plaques. Hein, puisque je vous ai dit que ça touchait plus la femme, il y a forcément un terrain hormonal, et donc il y a des recherches pour donner des traitements hormonaux pour empêcher la survenue de poussée. Donc il y a moins de poussée pendant la grossesse, et dès lors que la femme a accouché, il y a un tout petit peu plus de poussée après. Donc moins de poussée pendant la grossesse, un tout petit peu plus après, ce qui fait que globalement, qu'une femme ait ou n'ait pas d'enfant, le nombre de poussées restera globalement identique, et une femme qui aura eu 3 enfants n'aura pas plus de risque d'avoir un handicap qu'une femme qui n'en a pas eu. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne contre-indique absolument pas les grossesses. De même, on dit aux mamans qu'elles peuvent accoucher sous péridurale, elles peuvent allaiter parfaitement et les enfants sont des enfants strictement normaux comme des mamans qui n'ont pas la maladie. La simple précaution qu'on prend, c'est qu'on va arrêter le traitement pendant la grossesse, mais là encore, ça n'est même pas obligatoire. On va l'arrêter tout simplement parce que je vous ai dit qu'il y avait moins de poussée. Donc on va arrêter le traitement. Mais ce n'est pas obligatoire. Je passe là-dessus. Les vaccins. Alors les vaccins, il y a toujours une polémique sur les vaccins. Il y a un regain encore cette année avec il y a la double peine, il y a la double vaccination, la vaccination de la grippe saisonnière et la vaccination de la grippe H1N1. Alors pour ce qui concerne les vaccins, on peut se faire vacciner contre un grand nombre de maladies. Hein. On peut se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Moi, je recommande aux scléroses en plaques, aux patients atteints de cette maladie-là, de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Il a été démontré dans plein d'études que ça n'avait aucun effet négatif. Par contre, pour ce qui concerne la grippe H1N1, on n'a actuellement aucun recul. Donc, moi, je préfère ne pas le conseiller, dans la mesure où on ne sait pas. Pour ce qui concerne l'hépatite B, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, il n'y a pas de relation entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Hein, ça c'est maintenant absolument clair. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent qu'ils ont contracté la maladie après une vaccination. C'est un effet du hasard qui a été affirmé en Angleterre, en France, aux États-Unis. Alors, le traitement. Alors, le traitement, il ne faut pas être tout seul. Hein. C'est-à-dire que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Nathalie vous parlera de l'importance de l'infirmière dans la prise en charge de cette maladie. Mais il y a des kinésithérapeutes qui auraient pu parler, des assistantes sociales, des ergothérapeutes. Et puis, bien évidemment, il faut qu'on travaille la main dans la main avec le médecin généraliste et puis avec le médecin rééducateur le plus souvent. Et ça, c'est à tous les stades de la maladie. Alors sur le plan du traitement, toute poussée va se traiter par des corticoïdes. Ça c'est important, les corticoïdes vont raccourcir le handicap, vont raccourcir la durée et vont accélérer la guérison. Ce sont des corticoïdes à très forte dose. Je ne vais pas vous donner les doses, peu importe. C'est très bref, c'est sur 3 à 5 jours. Ça se fait à l'hôpital. Mais dans certains cas, on peut autoriser ce genre de cure à être réalisé à la maison, moyennant un certain nombre de précautions. Le fait de donner des traitements par corticoïdes, une cure de corticoïdes, eh bien, ça ne joue pas sur la maladie. Ça améliore le handicap temporaire, ça fait diminuer la poussée. Hein, mais pour autant, le patient pourra faire 5-10 poussées, ça ne joue que sur la poussée. C'est comme quand on donne du paracétamol quand on a de la fièvre, ça fait baisser la fièvre, mais ça ne guérit pas la maladie infectieuse derrière. Le but du traitement, vous allez comprendre ce schéma qui peut paraître compliqué. Là, c'est le sang. Là, c'est notre cerveau. Et puis, vous savez que notre cerveau est protégé par ce qu'on appelle une barrière. Les méninges jouent ce rôle-là, sinon notre cerveau serait abîmé en permanence. Et donc, la maladie, c'est des cellules tueuses, des lymphocytes, qui vont passer dans le cerveau à travers cette barrière et qui vont entraîner tout un tas de problèmes. Donc, le but du traitement, ça va être de protéger le neurone, ça va être de favoriser la réparation, et puis ça va être de limiter l'attaque de ces lymphocytes. Et le mieux pour limiter l'attaque, c'est de les empêcher de rentrer. Alors, le traitement de fond, c'est dans les maladies à forme poussée, donc 60%, c'est trois buts. Premièrement, c'est diminuer ou stopper les poussées. Deuxièmement, c'est diminuer les nouvelles plaques. Troisièmement, c'est diminuer ou arrêter la progression du handicap. Donc, les traitements qu'on doit vous donner doivent obéir à ces trois critères. Et donc, lorsque vous êtes vu en consultation par n'importe quel neurologue ou par moi, moi, je vous demande si vous avez fait des poussées. Je vous examine comment est votre handicap, comment vous marchez, etc. Et puis, de temps en temps, on fait des IRM pour voir si tout va bien. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'effets secondaires majeurs. Et puis, il ne faut pas que ce soit des médicaments toxiques. Ça, c'est très, très important. Pas de médicaments toxiques, ça veut dire des médicaments qui ont été parfaitement étudiés par des structures appropriées. Ce n'est pas des médicaments qu'on peut trouver sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition dans ces formes rémitantes ? Aujourd'hui, eh bien, on a ce qu'on appelle les immunomodulateurs, et beaucoup d'entre vous sont sous ces traitements-là. C'est les interférons. Alors, je cite juste les noms parce que ça vous cadrera. C'est la Vonex, le Rebif et le Bétaféron. Et puis, c'est un autre immunomodulateur qui n'est pas un interféron qu'on appelle la Copaxone. Ces quatre produits-là ont exactement la même efficacité. Ça joue sur la fréquence des poussées. Alors, je vous demande juste de retenir temporairement ce chiffre. Ça diminue de 30% le risque de poussée. Ça diminue les nouvelles lésions en IRM et ça ralentit le handicap. Autrement dit, ces produits-là remplissent parfaitement ces trois conditions. Ils ne sont pas toxiques, ils ont des effets secondaires, que, bien sûr, mais qui ne sont pas majeurs. Alors, ce sont des chiffres. Ça diminue les poussées de 30%, mais il y a des gens chez lesquels, et moi j'en suis un grand nombre, qui n'ont plus de poussées depuis qu'ils sont sous ce traitement-là. Donc pour eux, c'est 100%. Il n'y a plus de progression de la maladie. Il y a malheureusement d'autres personnes que l'on suit également pour lesquelles ça ne fait rien. Il n'y a pas une sclérose en plaques, il y a plein de scléroses en plaques et plein de traitements différents. Donc voilà ces immunomodulateurs. Ça, c'est le traitement d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on va traiter très, 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 très tôt. C'est-à-dire qu'on va traiter quelquefois dès la première poussée pour empêcher, je ne sais pas si vous vous rappelez, une poussée qui récupère bien, une poussée éventuellement qui récupère bien, puis une qui ne récupère plus. Donc plus on traitera tôt, plus on empêchera la survenue d'un handicap ultérieur. Et pour vous montrer, ça c'était sur le plan national, le traitement est arrivé en France en 1995. Donc en 1998, on traitait nos patients après 4 poussées. C'est une moyenne nationale. En 2001, on les traitait après 3 poussées de moyenne. En 2004, on les traitait avec 2,6 poussées, et je suis certain maintenant que la moyenne est descendue à 2, ou voire à moins de 2. C'est-à-dire qu'on traite très, 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 très tôt. Alors, ça, c'est première possibilité de traitement de fond dans les formes à pousser. Dans des formes qui nous paraissent un peu plus agressives, ou dans des formes à pousser qui vont résister aux interférons, on aura d'autres produits. Ça, c'est un produit extrêmement récent qu'on appelle le natalizumab ou le tisabri. Je sais qu'il y en a ici dans cette salle qui sont sous ce produit-là. C'est un produit qui est extrêmement efficace. Ça n'est plus un interféron, c'est ce qu'on appelle un anticorps monoclonal. Et vous voyez, alors on le fait en perfusion au CHU, une perfusion de 2 heures. Les malades passent une demi-journée tous les mois à l'hôpital. Et qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, c'est que ça diminue la fréquence des poussées de 70%. Vous Vous rappelez que les interférences, c'était 30%. Hein, là, c'est deux fois plus efficace. Ça diminue, non pas l'apparition d'un handicap, mais ça diminue le handicap et ça fait quasiment disparaître l'apparition des nouvelles lésions en IRM à plus de 95%. Donc c'est un produit qui est extrêmement efficace, qu'on a le droit de prescrire si c'est des patients qui résistent aux interférons et si c'est des patients qui ont une forme qui nous paraît agressive. Alors, il y a quand même, en contrepartie, un risque d'une maladie qu'on appelle une infection du cerveau. C'est 1 pour 8000. Ce n'est pas un risque négligeable. Deuxième type de traitement dans les formes agressives, il ne faut pas lire la diapositive, hein, ça me sert de support. C'est ce qu'on appelle la mitoxantrone ou novantrone. Je sais que là aussi, un certain nombre d'entre vous l'ont eu. C'est une sorte de chimiothérapie qui est également extrêmement efficace. C'est qu'on fait en perfusion tous les mois et qui est bien tolérée. Là encore, ce n'est pas un traitement anodin, hein, puisque vous voyez qu'il peut y avoir un risque de leucémie chez une personne sur 800, c'est-à-dire que quand on traite 1000, il y a une personne qui aura la leucémie. Alors, ça veut dire que, eh bien, on doit parfaitement mesurer nos indications. Deuxième type de forme, c'est la forme rémittant secondairement progressive. Une poussée, de pousser, puis il va apparaître un handicap, on va avoir de plus en plus de difficultés à marcher. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? On peut proposer les interférons, pas tous, il y en a deux qu'on peut proposer, c'est le Rebif et le Bétaféron. On peut proposer la mitoxantrone, celui dont je viens de parler, ou novantrone. On peut également proposer l'endoxan. Un certain nombre d'entre vous ont eu de l'endoxan, c'est des perfusions tous les mois pendant un an à peu près, enfin un peu plus d'un an, ça fait même deux ans, parce qu'on fait tous les mois pendant six mois, puis tous les deux mois, puis tous les trois mois. Lorsque la forme est ce qu'on appelle primitivement progressive, c'est-à-dire le handicap qui s'accroît progressivement, eh bien là, on n'a pas beaucoup de traitements, aucun n'a véritablement fait la preuve d'une efficacité. Alors, à côté de ces traitements d'aujourd'hui, ce que je vous ai fait, c'est les traitements d'aujourd'hui, après on va passer aux traitements de demain. Il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on écoute les patients, leur maladie les handicape, mais il y a beaucoup de symptômes aussi qui les handicapent. Alors, c'est la rééducation. C'est un élément très, très important dans la prise en charge des patients. Si vous avez un kinésithérapeute qui vous fait pédaler sur un vélo et qui après va s'occuper d'autres personnes, ce n'est pas la peine de rester chez lui. Parce que vous épuisez votre moelle épinière et quand vous sortez, vous ne pouvez plus marcher. C'est normal puisque vous avez épuisé votre batterie. Non, il faut que le kinésithérapeute vous aide à lutter contre la spasticité, à savoir garder l'équilibre, mille choses comme ça, mais qui ne sont certainement pas des épreuves musculaires importantes. Et puis, dans certains cas, eh bien, c'est des adaptations avec éventuellement des orthèses ou autres, où il y a ici un certain nombre de personnes en fauteuil roulant. C'est quelque chose de très, 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 très important. Un symptôme dont beaucoup de gens se plaignent, qui ne recueille pas toujours l'écoute favorable des médecins, c'est la fatigue. Deux tiers des patients qui ont une sclérose en plaques se sentent fatigués. Alors, ce n'est pas du tout... généralement, le conjoint les houspille un petit peu, mais en disant « non, il faut que tu te remues ». C'est un symptôme qui est très, très important et très handicapant. Ce n'est pas forcément les gens qui ont une sclérose en plaques très invalidante qui ont beaucoup de fatigue. Ça peut être des gens qui ont très peu de symptômes. Et donc, on a un certain nombre de traitements. Je ne vais pas les détailler, mais il y a des traitements. Alors, là, je vais vous montrer deux bandes vidéo de deux patients pour vous montrer que ce qu'on peut faire avec des simples injections de toxines botuliques. Certains d'entre vous en ont eu. Certains d'entre vous en ont régulièrement dans les sphincters pour la vessie. Donc là, je vais vous montrer dans un bras. Donc, vous voyez ici un monsieur qui est tellement raide qu'il ne peut pas ouvrir la main. Voilà. Donc il est handicapé, hein, vous voyez, il est obligé d'étendre ses doigts, ça c'est la spasticité. Alors s'il doit se faire des injections d'interférons, ben, vous voyez qu'il est extrêmement handicapé. Il y arrive, mais donc après injection de toxines, voilà, il a la spasticité a disparu et il a une ouverture de main normale. Voilà. Donc, vous voyez, il peut parfaitement bouger ses doigts, il peut téléphoner, il peut faire ce qu'il veut. Alors, ces injections se renouvellent tous les 2, 3 ou 6 mois. Ici, un patient qui est beaucoup plus handicapé, vous voyez, il ne peut pas marcher. hein, puisqu'il marche entre deux barres, il a une spasticité très importante avec des pieds qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon varus équin. Vous voyez que c'est impossible, la marche est impossible. Donc là, ce sont des gens à qui on met des pompes à lyorésal, et vous voyez qu'ils retrouvent une marche plus autonome, d'abord avec un déambulateur, ensuite avec des cannes. Là, on n'a pas guéri la maladie, on a simplement amélioré les symptômes. Donc on passe d'un état grabataire à une autonomie. Alors bien sûr, il ne marche pas normalement, c'est évident, mais vous comprendrez la différence, vous avez tous vu la différence. Pour les troubles sphinctériens, il existe un grand nombre de traitements. Malheureusement, avant d'avoir ces traitements-là, j'en ai listé quelques-uns ici, ceux d'entre vous qui les prennent se reconnaîtront, il faut faire ce qu'on appelle un bilan urodynamique qui n'est pas toujours un moment très agréable, puisque c'est enregistrer nos sphinctères et aller donc faire un sondage en profondeur dans la vessie pour pouvoir juger de où siège l'anomalie. Les douleurs se traitent, je passe, et maintenant j'arrive à qu'est-ce qui est neuf. Alors, il y a un certain nombre de traitements, là je les mets ici. C'est des traitements qui se prennent par la bouche. Il y a une molécule ancienne qu'on appelle l'imurel, un certain nombre d'entre vous, je pense, sont sous imurel, je ne détaillerai pas. Mais à l'heure actuelle, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5 médicaments qui vont sortir sur le marché en 2009, qui vont sortir fin 2010 ou début 2011. Alors, je vais en dire quelques mots. Donc vous voyez ici, ce sont les noms de ces médicaments, les noms des laboratoires. Pour qu'un médicament sorte sur le marché, il a à franchir tout un tas d'étapes, ce qu'on appelle les phases 1, les phases 2, les phases 3, les phases 4. Lorsqu'il est en phase 4, il est quasiment commercialisé. Lorsqu'il est en phase 3, il a quasiment franchi toutes les étapes. Et donc, pour qu'un médicament soit commercialisé, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle deux études de phase 3 positives. C'est-à-dire que dans le monde, il y a eu deux énormes études qui disent que le médicament est efficace et n'est pas toxique. Et tous ces médicaments-là ont fait leurs deux études de phase 3. Et ce qui est vrai pour les États-Unis, Amérique, ici ce qu'on appelle la FDA, est aussi vrai pour l'Europe. Schéma très compliqué, mais vous allez rapidement être familier. Là, c'est le sang. Là, c'est le cerveau, avec ici notre neurone que vous reconnaissez. Ici, la cellule tueuse, et on voit tous les petits encadrés comme ça, c'est des nouveaux traitements qui sont quasiment en cours de commercialisation. Et vous voyez que tous ont des cibles différentes. Il y en a qui vont jouer sur les cellules tueuses, vous voyez ici un nom qu'on va reciter tout à l'heure, la cladribine, qui va arriver en 2010-2011. Ici, certains d'entre vous sont sous natalizumab, mais il y a d'autres anticorps monoclonaux, alemtuzumab, daclizumab, rituximab. Et puis vous voyez que pour protéger le neurone, on a aussi d'autres produits, le lacinimod, le FTY720, etc., etc. Donc tous ces médicaments sont parfaitement connus, sont parfaitement étudiés et vont sortir dans les prochaines années. Je passe sur l'imurel, je passe sur la vitamine D, je préfère les questions. Alors vous avez tous ceux qui ont eu l'interféron me posaient toujours la question, ceux qui ont l'interféron, et quand est-ce que l'interféron par la bouche va sortir? Il ne sortira jamais. Hein, c'est un échec. Donc ça, il faut le savoir, mais je dirais, on s'en fiche, dans la mesure où les traitements qui arrivent derrière, en 2011, 2010, 2011, 2012, sont beaucoup plus efficaces. Alors, juste pour vous montrer celui-ci, donc le Mylynax. Vous vous rappelez tout à l'heure que les poussées c'était, sous interféron, c'était moins 30%. Vous vous rappelez de ça, ce chiffre-là? Là, on est à moins 60%. La diminution des lésions actives en IRM, c'est 70%. Les interférons normaux font 50% à peu près. Il y a une diminution de progression du handicap de 30% en 2 ans. Et ce traitement-là, alors lisez là, comme moi, c'est un comprimé pendant 5 jours, 2 fois par an. C'est-à-dire que vous le prenez 5 jours, et puis 6 mois après, vous le reprenez 5 jours, et puis c'est fini pour l'année. D'accord ? Donc vous voyez quand même, il y a des choses qui... Alors, je suis un peu menteur, ça c'est en traitement d'entretien, parce que la première année, il faut le prendre 4 fois 5 jours par an. Hein ? Bon, c'est pas... voilà, donc ce médicament-là, il n'y a pas d'effet secondaire significatif, et ça va être le premier qui va sortir, il sortira en 2011 à peu près. il sortirait en 2011, parce que malheureusement, il y a des médicaments qui ont été stoppés. Mais quand il n'y en a qu'un, on peut être inquiet. Mais le problème, c'est, enfin, la chance, c'est qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Donc, en voilà un autre. Ici, je vous montre un schéma. C'est un médicament qui s'appelle le Fingolimod, qui devrait sortir aussi en 2011, où là, c'est un comprimé par jour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un médicament qui est issu d'un champignon qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc les Chinois peuvent nous apprendre des choses. Hein. Moi, j'ai rien contre la médecine traditionnelle, bien au contraire. Et là, vous voyez, c'est en anglais, mais peu importe, ça, c'est les patients qui n'ont aucune lésion nouvelle. Et vous voyez que quand on ne prend rien, c'est-à-dire qu'on est sous placebo, il y a quand même un certain nombre de patients pour lesquels la maladie n'évolue pas, mais dès lors qu'on prend le traitement, eh bien, le nombre de patients pour lesquels il n'y a pas de lésion nouvelle va doubler. Et globalement, celui-ci aussi diminue de 60% le risque de pousser, diminue la progression du handicap, comme comme la cladribine dont j'ai parlé tout à l'heure. En voici un autre qui sort également, qui s'appelle le teriflunomide. Chacun a des modes d'action différents. Ce qui est aussi étudié, c'est si on prend un médicament A, il y aura moins 30 ou moins 60% de poussée. Si on prend un médicament B, il y aura moins 30 ou moins 60% de poussée. Il y a maintenant des associations de médicaments qui sont étudiées. Et si on prend A plus B, est-ce que ce serait mieux? C'est ce qui s'est passé dans une maladie qui n'a rien à voir, mais qui est le sida. Une monothérapie ne marchait pas, une autre monothérapie ne marchait pas. Et puis maintenant, avec la trithérapie, on arrive à des résultats beaucoup plus intéressant. Donc il va falloir savoir si l'association des médicaments fait mieux. Bon, je vais passer là-dessus, parce que c'est tous la même chose, ce sont tous des traitements par la bouche qui donnent les mêmes résultats, hein, c'est-à-dire deux fois plus efficaces. Alors, j'ai eu deux patients qui m'ont écrit il y a un mois pour les greffes de cellules souches. Il y a une espèce de gros espoir dans les greffes de cellules souches. C'est bien d'avoir des espoirs dans ça. La greffe de cellules souches, c'est on va prendre dans la moelle osseuse, ici, au niveau de l'os de la crête iliaque, on va prendre des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui vont se transformer en globules rouges. Donc on les prend et puis on va les réinjecter dans le sang. Ah, peut-être que c'est ici. Et ces cellules vont pouvoir agir contre l'agression. Alors, vous avez ici un site, alors surtout ne le prenez pas, mais c'est un site qui fait une énorme publicité sur Internet, où ils mettent qu'ils ont une grosse expérience dans la sclérose en plaques. Bon, c'est totalement faux. Ils ont vu très peu de patients. Vous voyez, 19 patients. Comment peut-on faire des statistiques sur 19 patients? Il y a une mortalité qui n'est pas négligeable. Le coût, on s'en fiche un peu du coût, c'est pas la question ce soir, mais il y a une mortalité qui n'est pas négligeable. Donc il faut laisser ce problème aux scientifiques. Et actuellement, il y a tout un tas de papiers qui paraissent dans nos revues scientifiques sur la greffe de cellules souches. Alors ça, c'est mon avant-dernière diapositive, mais c'est celle que je préfère, même si vous ne pouvez pas la lire, parce qu'elle est floue. Mais c'est pas grave. C'est une cible. La cible, c'est le centre. Le centre, c'est ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire les médicaments que j'ai le droit de prescrire aujourd'hui pour cette maladie-là. C'est quoi? C'est les interférons bêta, hein, Avonex, Rebif, bêtaféron, et la copaxone, qui est là, la mitoxantrone qui s'appelle la novantrone ou Elcep, et puis le natalizumab qui s'appelle le tisabri. Donc ça, c'est ce que j'ai le droit de prescrire. Et puis, vous avez ici tout ce qui se rapproche de la cible. La phase 3, ce sont des médicaments qui sont sur le commerce dans 2 ans, à peu près. 1, 2, 3 ans. Et là, je vous ai parlé, vous rappelez de la cladribine, là, celui qui se prend 4 jours, 2 fois par an, qui est là. Vous voyez ici le teriflunomide. Ici, c'est celui qui est issu du champignon chinois. Là, c'est ce qu'on appelle le BG12, qui est déjà utilisé dans le psoriasis. Ici, c'est un autre médicament. Et puis ici, c'est des anticorps monoclonaux qui ressemblent au natalizumab. Donc, vous voyez, en phase 3, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8 ou 9 médicaments qui vont sortir dans les prochaines années. C'est plus que ce qu'on en a déjà. Hein? Ça, c'est la phase 3. La phase 2... Bon, c'est un peu plus loin, mais vous voyez que ça travaille. La phase 1, il y en a. Et je ne vous ai pas mis les hormones, la vitamine D, les statines, je ne vous ai pas non plus mis la greffe de cellules souches. Si on doit parler de la greffe de cellules souches, elle est ici, hein, elle est très 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 loin encore, hein, Donc c'est pour ça, quand on voit des sites qui font ça moyennant finance, je suis personnellement un peu effrayé. Alors, il y a des thérapeutiques alternatives. Je n'en parlerai pas là, mais je préfère répondre aux questions. Hein. C'est quelque chose d'important aussi. Pas toutes. Hein. J'ai mis ici celles que font certaines personnes. L'acupuncture, le yoga, les massages, c'est bien. Les régimes, pourquoi pas. Le cannabis, on pourra en parler si vous voulez. Voilà. Bon. Ensuite, il y a un élément qui est bien... Je ne pouvais pas ne pas mettre cette diapositive, hein, c'est les associations de patients, quelles qu'elles soient, parce que ça demande une grande aide, et c'est grâce aux associations de patients que la médecine fait des progrès aussi, parce que c'est un levier de finance vis-à-vis de nos instances. Hein, plus les associations de patients sont fortes, plus la recherche est forte. Hein, si vous prenez l'association de patients Aide pour le SIDA, c'est une association très forte, et ils ont beaucoup, beaucoup de finances, ce qui est bien. Voilà, et je terminerai par cette diapositive hein, pour vous dire que le désespoir, c'est le seul péché impardonnable. Hein. Je crois que c'est une maladie pour laquelle les progrès en l'espace de quelques années ont été extrêmement importants et vont être encore plus importants. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie, puis après on pourra poser les questions. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Bonsoir. Donc après Monsieur Jean-Philippe Nau, moi je vais vous parler et faire ma phrase de transition qui n'est pas faite exprès, mais elle tombe à point nommé, de Jean-Philippe Assal. Et après cet exposé, donc lui il dit « Mieux un malade connaît sa maladie, moins il la craint, plus il est capable de la gérer correctement ». Donc moi je vais vous parler de l'éducation thérapeutique, l'accompagnement du patient qui se fait au sein du CHU de Poitiers. Donc, qu'est-ce que l'éducation thérapeutique ? Rémi Gagnère nous dit « L'éducation thérapeutique vise à faire acquérir au patient des compétences lui permettant d'assurer par lui-même toute ou une partie de son traitement et de réaliser les changements personnels nécessaires pour concilier son projet de vie avec les exigences de la gestion de la maladie et du traitement. » On peut résumer cette phrase par trois mots. L'éducation thérapeutique permet de concilier la maladie, le traitement, mais aussi le projet de vie. Donc, de ces trois mots découle la relation du soignant et du soigné. Donc, la stratégie relationnelle est différente. Il ne s'agit pas d'une participation mutuelle, mais d'une alliance entre le soignant et le soigné. Le transfert de compétences doit pouvoir se faire sans transfert de responsabilité. Le médecin va transmettre à l'infirmière et au patient. Et l'infirmière va transmettre au patient et bien sûr à son entourage. L'autoritarisme directif n'est plus d'actualité. Et bien sûr, le soignant doit accepter notre réalité. C'est la réalité peut conduire à l'échec, puisque quelqu'un qui n'aura pas envie de prendre son traitement va aussi nous induire dans un schéma où, à un moment donné, il faut lui donner les connaissances sur cette pathologie pour après passer à son traitement. Donc c'est donc une double acceptation. Nous avons notre soignant qui accepte de transférer ses compétences et notre soigné qui sort de son état de dépendante et de consommateur du système de santé pour devenir un acteur à part entière. Le soigné va s'approprier des nouvelles connaissances. Donc je vous ai fait quelques diapositives quand même sur la loi du 16 juillet 2009. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc la démarche est un processus permanent adapté à l'évolution de cette maladie. Ici, nous sommes dans une maladie chronique qui va évoluer. Elle se distingue de la simple information. Les soignants ne sont plus là pour donner des informations, mais donner un petit peu plus, transmettre des connaissances sur cette pathologie et sur les traitements à venir. Elle colle à la définition du guide méthodologique. Elle va reposer sur un ensemble de méthodes et d'outils. Et elle est mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire formée à la démarche éducative aux techniques pédagogiques. La démarche va s'appuyer sur une évaluation des besoins et de l'environnement du patient. Elle est construite avec le patient. Nous sommes toujours dans cette relation de soignant-soigné. Elle implique bien sûr les proches au sens large. Nous ne sommes plus avec le conjoint, les enfants. Nous sommes vraiment avec un entourage beaucoup plus complet. Ça peut être la personne ressource, une personne de confiance, un ami. Elle va s'adapter au profil socio-éducatif et culturel du patient et s'adapter à son rythme. Donc notre patient, au cœur de notre pyramide, au cœur de notre prise en charge, cette prise en charge multidisciplinaire, avec le neurologue, le médecin traitant, bien sûr l'infirmière référente, mais les autres soignants aussi au sein de l'Institut, avec le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, notre diététicienne, le rééducateur, l'assistante sociale. Mais la chose essentielle pour nous dans cette prise en charge, c'est aussi l'entourage qui va rejoindre notre patient au cœur de cette prise en charge et qui, nous, pour nous, va être aussi une personne ressource. Et le voilà, il arrive. On va lui laisser faire son demi-tour. Donc l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? Et l'éducation thérapeutique, du latin educare, signifie, donc va permettre à la personne de sortir de soi, de se développer et de s'épanouir. Ça va conduire le patient à grandir et à se dépasser. Et bien sûr, pour nous soignants, ça implique un conseil et un soutien. Ce principe, il n'est pas nouveau, puisque déjà Molina, en 88, parlait et posait le principe que le premier agent de santé, c'est l'individu lui-même. Donc de tout ça découle la notion de consultation infirmière. Donc la consultation infirmière est un mode d'expression des soins infirmiers et de la compétence infirmière. Jovik Livna, déjà, nous parlait de consultation infirmière. Elle avait déjà fait un petit sondage sur les consultations déjà en 1970, c'était les consultations pour la stomatothérapie. Depuis, toutes ces consultations se sont développées dans diverses pathologies. On le retrouve au sein de notre CHU, que ce soit en diabéto ou en rééducation, un peu partout. Donc dans nos textes infirmiers, bien sûr, hein, dès le début, on retrouve au référentiel d'activité au sein de l'activité au numéro 3, on nous parle déjà de l'information et de l'éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes. Donc je vais passer sur... Donc comment ça se passe ? Quand on est infirmière référente et qu'on fait un peu d'éducation thérapeutique, on travaille avec un programme qui va se décliner en quatre étapes. D'abord, on va avoir l'identification du patient. On va définir un programme et après, il va y avoir une planification, une mise en œuvre. Et à la fin, bien sûr, il y aura la réalisation d'une évaluation. Donc l'identification du patient, notre patient, qu'est-ce qu'il est ? Donc s'assurer que le patient a compris sa maladie et pourquoi il doit être éduqué. Tout traitement ne va pas être commencé avant que notre patient ait eu au moins quelques connaissances sur cette pathologie. Qu'est-ce qu'il fait ? Explorer le contexte professionnel et social. Nous sommes avec, comme nous avons vu précédemment, des gens jeunes, entre 20 et 30 ans, qui ont une vie professionnelle active, qui sont en projet, que ce soit pour leur maison, pour une vie familiale, les enfants. Donc il faut bien prendre en compte tout ça. Qu'est-ce qu'il sait ? Explorer le savoir du patient sur sa maladie et son traitement, comment il l'inclut au travers de ses croyances et de ses connaissances. Qui il est ? On cherche à cerner les traits psychologiques du patient afin de mieux prévoir ses comportements, ses attitudes pour en tenir compte dans la relation pédagogique. Donc ce qu'on a vu précédemment, bien sûr, les compétences à acquérir, c'était connaître la pathologie, reconnaître les symptômes qui vont être différents de tout ce qui est symptômes pour une poussée, connaître la conduite à tenir en cas de poussée. Donc ici, nous avons la chance, nous avons un numéro direct. Donc les patients peuvent nous appeler directement à ce numéro. Ils sont pris en charge sans passer par les urgences et sont accueillis dans le service. Bien sûr, on en réfère à leur neurologue référent. On leur fait décrire les symptômes à ce moment-là et c'est le neurologue référent qui prend la décision de le faire hospitaliser ou pas. Donc les compétences à acquérir après donc, cette annonce du diagnostic et quand le médecin va prescrire un traitement de fond, la manipulation du traitement et l'observance, donc faire face aux effets indésirables de ce traitement, gérer le stress, la fatigue et la douleur qui peuvent être présents avant le début du traitement, qui peuvent être accentués aussi pendant le début du traitement, et utiliser les ressources mobilisables. Donc les ressources mobilisables, c'est aussi l'entourage. Le programme en termes d'activité et de contenu, donc pour qui ? Pour les patients atteints de sclérose en plaques, en début de pathologie, à l'annonce, avec un traitement de fond, mais aussi après, bien sûr. Quel traitement ? Je ne vais pas vous les redire, M. No les a détaillés. Donc je vais passer. Donc qui est organisé dans le temps. Donc c'est vrai qu'il y a un petit changement, puisqu'avant, il y avait cette annonce de diagnostic et on attendait une période qui était beaucoup plus longue, avant la mise en place du traitement. C'est vrai que maintenant, il y a souvent une annonce de diagnostic et un traitement qui arrive derrière. Donc ce temps est un petit peu raccourci, mais on est aussi là pour répondre à toutes les questions des patients. Donc réalisé à l'aide de supports éducatifs, hein, bien sûr, les laboratoires nous laissent à disposition des supports vidéo, des livres, il y a des petits manuels quand on commence un traitement, il y a des carnets de suivi. Donc planification de l'éducation thérapeutique, ici au CHU, il n'y a pas vraiment de choses données, on travaille vraiment avec le patient, avec l'individu, il y a des séances individuelles, donc on commence quand il y a eu un traitement de prescrit. Il y a déjà une information sur tous les traitements. Après, le traitement est décidé avec le neurologue. Et après, pour la mise en route, ça ne se passe pas. Il n'y a pas d'uniformisation. On fait vraiment un coup par coup avec l'individu. La personne vient et on commence des séances. Il y a un encadrement. Les premières fois, on reste une heure. Après, c'est 10 minutes, c'est 5 minutes. Ça peut être fait en une semaine. Quelquefois, il y a des gens, ils ont fait deux injections, j'ai tout compris. Ils repartent chez eux. Il y a des gens qui vont être là un petit peu plus longtemps. Donc, il n'y a vraiment pas de trame, vraiment. C'est selon l'individu. Donc, il y a un local qui est dédié à ça, qui se tient au quatrième étage, entre les deux services de neurologie. Donc, qui éduque ? Ce qu'on a vu tout à l'heure dans les textes, tous les soignants ont donc, dans leur formation de base, les compétences de faire de l'éducation thérapeutique. Après, au sein du service, c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus infirmière référente, mais c'est vrai qu'il y a toujours des informations en salle sur tout ce qui est les nouveaux traitements, sur les accompagnements. Quand il y a un patient qui arrive dans le service et qui a un traitement, soit l'infirmière de secteur arrive, connaît le traitement, et autrement, moi, je viens pour donner d'autres informations. Les ressources extérieures, c'est bien sûr le réseau ville-hôpital. Hein. On travaille beaucoup avec les neurolibéraux. On travaille avec les infirmières libérales. On s'appelle, si elles ne connaissent pas le traitement, je vais leur envoyer une vidéo. On va pouvoir faire un suivi téléphonique quand les gens sont très loin. Il y a le réseau des laboratoires. Chaque laboratoire a un réseau bien à part d'infirmières qui peuvent venir à domicile. Soit refaire un encadrement du patient à domicile. Il y a bien sûr le médecin traitant, il est tenu au courant avec les courriers, mais il peut être aussi là, et bien sûr les associations. Donc après ce temps de traitement, après cet apprentissage, il peut y avoir des séances de suivi, on peut se revoir à 2 mois, 3 mois, on se revoit au moment des consultations, puisque je fais les consultations avec M. No. Donc à chaque fois, on reparle du traitement, on se revoit dans une autre pièce. Ce qu'on a fait ponctuellement au CHU, c'est des séances de groupe. L'année dernière, juste en décembre, le 22 décembre, on s'était réunis avec les gens qui avaient eu leur traitement pendant l'année. Et on avait pu échanger autour d'une table. Monsieur No était venu répondre aux questions médicales. On était avec la psychologue et moi-même. Donc par téléphone, je vous ai dit qu'il y avait donc un numéro direct pour toutes les petites questions, que ce soit sur la pathologie, les petites inquiétudes. Il y a toujours ce lien. Donc, quelle évaluation de quel impact ? Donc, je voulais terminer. La finalisation de l'éducation du patient doit se garder de toute dérive normative qui ne viserait qu'une meilleure adhésion au traitement. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est que nous, en tant que soignantes, on ne doit pas seulement être vigilante à ce traitement qui doit être pris. Il y a aussi tout le à côté. Il s'agit plutôt de permettre au patient de devenir sujet de ce qui lui arrive, qu'il comprenne cette maladie, qu'il comprenne ses manifestations, qu'il puisse identifier la poussée, qu'il puisse aussi recorriger tout ce qui va être effet secondaire du traitement de fond. Donc, constat de toutes ces évaluations. Ça fait 5 ans que j'ai ce poste. Au début, on a commencé doucement. C'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup de patients éduqués. Monsieur, nous, on suit beaucoup. Donc, la demande récurrente des patients, c'est ce qu'on a fait ponctuellement. Et un constat, puisque je suis aussi allée en stage à la Salpêtrière, et qui serait peut-être applicable à notre structure, c'est faire des séances de groupe. Donc, le projet, ça serait ça, faire des séances de groupe pour que les patients puissent échanger entre eux, puisque la parole de quelqu'un qui vit son traitement tous les jours a une valeur considérable pour celui qui commence ou celui qui vit les mêmes choses. Donc, ce qu'il faut le retenir, donc, c'est un travail en équipe pluridisciplinaire, comme l'a dit Monsieur Nou, comme je vous l'ai fait voir avec mon schéma, que la place du patient en tant qu'acteur de santé, elle est vraiment centrale avec son entourage. Et je vais terminer et je vais vous remercier pour votre écoute et je vais vous dire aussi que l'éducation, c'est une belle aventure humaine.
On est prêt à répondre à des questions, que ce soit dans cette salle-ci ou au planétarium. Je ne sais pas comment vous avez prévu de gérer, Mme Guiton, ou les micros. D'accord. Merci.
Alors, c'est pas une question, mais moi, je voulais juste souligner la qualité de la prise en charge du service neuro du CHU de Poitiers et notamment de l'accompagnement thérapeutique parce que voilà, tout se passe très bien. C'est vrai qu'il y a énormément d'écoute. À chaque fois qu'il y a une question, voilà, il y a des réponses et on a vraiment l'impression d'être pris en compte et ça, c'est très très important. Donc voilà, tout simplement, je voulais vous en remercier.
Bonjour, j'aurais voulu savoir, dans les nouveaux traitements, vous n'avez pas forcément dit exactement pour les formes de sclérose en plaques, exactement. Donc j'aurais voulu savoir un peu où on en est au niveau des avancées.
Si je parle à voix haute, on m'entendra aussi là-bas, je n'ai pas besoin forcément du micro. Il marche celui-ci, d'accord, ok, merci. Vous avez tout à fait raison. Dans les nouveaux traitements, j'ai essentiellement parlé des formes rémitantes, des formes à pousser. Tout simplement parce que ce sont les formes les plus faciles à traiter et que lorsque on a un nouveau traitement, il est d'abord essayé dans les formes à pousser. Une fois qu'il a prouvé son efficacité dans les formes à pousser, il est ensuite essayé dans les autres formes. Par exemple, les formes à pousser puis qui progressent, ou les formes qui progressent d'emblée. Pour ce qui concerne les interférons, qui ne sont pas des nouveaux traitements, mais qui sont les traitements anciens, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple le bétaféron, je cite des noms, par exemple le rebif, ont montré qu'ils étaient efficaces dans des formes à pousser puis progressives. Les autres ne l'ont pas montré. Pour ce qui concerne les formes progressives d'emblée, les interférons, les trois interférons et la copaxone, ont montré leur inefficacité complète. Mais pour tout ça, il faut beaucoup, beaucoup d'années, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les formes rémitantes, c'est 60%, donc c'est déjà une grosse population. Les formes progressives, ça n'est, et heureusement, puisque ce sont les plus méchantes, ça n'est que 10%. Donc il faut beaucoup, beaucoup de patients, beaucoup, beaucoup de temps, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est efficace dans les formes à pousser, ces nouveaux médicaments, mais les résultats des recherches dans les autres formes ne sont pas parus. J'ai répondu à votre question ? D'accord.
Très bien, merci.
Merci. Je me permets de prendre la parole parce que je voulais réagir sur ce que vous aviez dit concernant un kiné qui aurait demandé au patient de pédaler et de s'épuiser donc dans cet effort-là. J'ai perdu l'équilibre, enfin, vous le savez certainement. J'ai longtemps eu des difficultés pour marcher et maintenant je fais du qigong, donc c'est de la médecine douce, c'est chinois et ça me permet de travailler vraiment tout en légèreté. Enfin, parfois on se rend à peine compte du travail fait, mais en tout cas je sais que j'arrive à marcher beaucoup mieux, que j'ai un équilibre bien meilleur que ce que je n'avais pu avoir auparavant. Et voilà, je voulais dire que quand on avait encore la chance de pouvoir être sur nos deux jambes, c'était important de prendre soin de soi et de faire toutes ces choses légères, douces, mais qui nous permettent d'avancer. Voilà, merci.
Je vous remercie de votre témoignage, tout à fait.
Dire,
ce qui est important, c'est de réapprendre l'équilibre, etc. Et je répète, hein, ce n'est pas de faire des exercices musculaires.
Hein. Oui, je vais rebondir sur ce que cette personne a dit. Moi, je pratique de la médecine douce sur des gens, notamment du Reiki, qui est une méthode japonaise et qui permet de redonner, moi, pour d'autres raisons. Hein, j'avais perdu la marche également. Et on m'en a donné et je m'étais promise d'en donner. Et j'en donne et je peux vous assurer que les retours sont impressionnants. Voilà, bon courage à tout le monde.
Comme vous avez dû le voir dans ma dernière diapositive, la médecine traditionnelle que je représente ne rejette absolument pas ce genre de médecine pour tout ce qui est yoga, sophrologie, homéopathie tout, et technique de relaxation. Moi, personnellement, j'y suis entièrement favorable. La seule chose, c'est que ça ne peut être qu'un complément à une prise en charge médicale. Là où serait l'erreur, c'est de se dire « je me contente de ça ». Comme vous l'avez très bien dit, l'une et l'autre, ça vous assure un meilleur équilibre, un bien-être que vous avez en complément de votre traitement. Et là où peut se faire la dérive éventuellement, c'est lorsqu'on a un certain épuisement de la médecine traditionnelle et qu'on verse progressivement et uniquement là-dedans. Mais en accompagnement, c'est très bien, il faut que chacun trouve son équilibre. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. À condition aussi de ne pas se faire vider le portefeuille.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention aujourd'hui. Cette information est très utile. Bon, je vais reprendre ce que disait la dame tout à l'heure pour remercier tous les gens du service neurologique du CHU de Poitiers. J'avais juste une petite question. Vous avez abordé le principe de la reconstitution de la myéline tout à l'heure, mais vous n'avez pas développé ce point-là. Alors, ma question était de savoir si cette reconstitution de la myéline peut aussi reboucher les plaques. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme.
Je crois que ce qui est important, vous avez dû voir, j'avais montré une photo, c'est une très jolie photo, on voyait les neurones un peu partout, enfin on avait l'impression que c'était 2001 Odyssée de l'espace, là, où il y avait les neurones verts un peu partout. Donc ce qui est important, c'est que si il y a une voie de conduction qui est abîmée, vous avez de toute façon un certain nombre de synapses et d'autres chemins qui vous permettent éventuellement de contrecarrer la voie qui est abîmée. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui font un accident vasculaire au cerveau, qui ont un énorme trou dans le cerveau suite à cet accident vasculaire, et ils n'auront pas de séquelles ou très très peu de séquelles. Ça veut dire qu'il y a, d'autres synapses qui se sont constituées, d'autres synapses qui sont devenues fonctionnelles. Moi, je ne suis pas du tout musicien, malheureusement, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Mais il y a des gens qui, à force de s'entraîner, sont des virtuoses. Eh bien, c'est parce qu'ils créent d'autres connexions, ils développent des connexions. Si on a appris à conduire, au début c'est difficile, après c'est facile, c'est automatique. Donc si vous voulez, les neurones ne se réparent pas forcément, mais il y a d'autres voies qui se font. Et l'importance de la kinésithérapie, l'importance de la rééducation qu'on fait soi-même, c'est de développer ces autres voies. Voilà. Donc la réparation de la myéline, c'est important, mais développer les autres voies, c'est aussi important. On a plein de connexions dont on ne se sert pas.
Merci.
Bonjour, donc Céline Le Bétier, je suis assistante sociale au service d'accompagnement à la vie sociale de l'association des Parisiens. Je suis dans le planétarium.
Oui.
Donc j'accompagne des personnes qui ont en majorité une sclérose en plaques. Alors, je suis sur mon poste depuis un mois et demi, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc, il y a certaines personnes que j'accompagne qui sont donc alitées, donc très dépendantes. Je voulais savoir au niveau des nouveaux traitements dont vous parliez, est-ce que ça peut avoir un impact sur des personnes voilà, qui sont aujourd'hui alitées et qui ont voilà, une progression qui stagne actuellement.
Alors, au jour d'aujourd'hui, pour des patients très handicapés, on n'a pas de molécules actives pour la maladie. Mais, on n'a pas de molécules actives aujourd'hui pour la maladie. Je ne sais pas ce que sera demain, car il y a 10 ans, j'aurais pu dire qu'on n'avait pas de molécules actives pour la maladie, tout court. Donc, je ne sais pas ce que sera demain. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le handicap que nous, médecins, on voit, et peut-être que vous voyez aussi, c'est un handicap moteur. Mais quelquefois, pour le patient, c'est un handicap, mais ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui pourrissent la vie. Les troubles sphinctériens, la fatigue, les douleurs, les troubles du sommeil. Enfin, on pourrait en citer comme ça 50. Et rien qu'améliorer plusieurs points de tout cet inconfort apporte beaucoup. Donc on ne peut pas dire, même si le patient est grabataire, même si le patient a d'énormes difficultés motrices, il n'y a rien à faire. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses à faire.
Et autre
mais guérir la maladie, au jour d'aujourd'hui, c'est la réponse est non. On ne peut pas donner de faux espoirs. Hein. Mm-hmm. Mais la recherche continue et avance.
D'accord. Et j'ai une deuxième question. J'accompagne des personnes qui ont la sclérose en plaques dans le maintien à leur domicile. Et parfois, le maintien n'est plus possible car elles ne supportent plus. Hein. J'ai une personne qui est très isolée, donc elle vit difficilement la vie à domicile. Mais j'essaie de trouver des établissements spécialisés dans la sclérose en plaques. Et ce qu'on me dit, c'est que ça devient de plus en plus sectorisé, donc de plus en plus difficile d'accéder à ce type d'établissement.
Donc il y a des établissements qui sont spécialisés. Hein. Il y a Rion dans le Cantal, il y a Geneviève Revel qui est à Toulouse, il y en a Lyon, et ceux de Toulouse, je ne sais plus, mais il y a il y a des centres, on n'en a pas dans la région, mais il y a des centres exprès, avec oui. Tout un accompagnement.
Voilà, et moi les informations que j'ai eues, c'est que c'était devenu sectorisé.
Et donc, qu'est-ce que vous entendez par sectorisé ?
Géographiquement.
Ah non, parce que par exemple, on a vu hier un patient en consultation, qui est un patient qui est assez handicapé et qui avait fait deux séjours, l'un dans la Mayenne, donc vous voyez, c'est pas chez nous, et il revenait de Rion où il était enchanté. Donc en 6 mois, il avait fait un séjour dans la Mayenne et un séjour, alors je sais pas où c'est Rion, c'est dans le Puy-de-Dôme, voilà, oui. Et un séjour dans le Puy-de-Dôme. Donc je crois qu'il faut frapper aux bonnes portes. Et c'est là où les associations sont importantes, c'est là où tous les supports que vous fournissent les laboratoires, je n'ai pas regardé en détail parce que si je ne l'avais pas vu, là, il y en a un qui est sur l'ado-patient, comment il s'appelle celui-ci, Nathalie, là, je l'avais dans mon sac, ça, je suis sûr que c'est marqué là-dedans. Hein. Donc, je crois qu'il faut chercher.
Hein. Oui, merci beaucoup.
Bonsoir, je suis dans le planétarium. Donc ma question, c'était quand on a fait une poussée, qu'on est hospitalisé 3 jours de bolus de solumédrol 1 gramme, combien de temps il faut attendre après pour que les symptômes, on va dire, s'atténuent ?
On admet, si vous voulez, que le produit peut agir jusqu'à 1 mois après l'administration. Donc ça veut dire que si les symptômes régresse après 1 mois, c'est que, a priori, c'est pas les corticoïdes qui ont agi. Est-ce que j'ai répondu ?
D'accord. Et autrement, une autre question. Moi, ça s'est trouvé que j'ai été hospitalisée au CHU, donc avec 3 jours de bolus de solmédrol. Je suis rentrée au CHU, je n'avais pas de symptômes. Enfin, j'avais des symptômes. Quand je suis rentrée chez moi, d'autres symptômes beaucoup plus graves se sont apparus. Donc, je voulais savoir comment ça se fait.
C'est difficile de vous répondre comme ça, parce qu'il y a peut-être un certain nombre de raisons potentielles. Mais de toute façon, les corticoïdes dans cette maladie-là ne peuvent en aucun cas aggraver. Si vous avez développé d'autres symptômes, c'est peut-être parce qu'il y a eu une infection X ou Y qui a fait entraîner d'autres manifestations. C'est toujours possible d'attraper des infections dans un hôpital. Peut-être que, je ne sais pas pour vous, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont des examens complémentaires, dont une ponction lombaire, et souvent ils sortent plus mal chez nous, de chez nous qu'ils sont rentrés, parce que ça donne ce qu'on appelle des maux de tête importants, des syndromes post-ponction lombaire. Et puis enfin, lorsque la maladie est en évolution, on peut très bien avoir plusieurs poussées comme en mitraillette qui ne sont pas tout de suite enrayées. Donc c'est possible.
Je vous remercie.
Bonsoir. J'ai une amie qui est traitée par le TISABRI, pas à Poitiers, mais à l'hôpital de Périgueux. Elle est pianiste, donc elle a pu ça vous fait rire peut-être parce que vous avez vu le film concernant ça.
Oui, exactement.
C'est
oui.
Ça. Je voulais savoir combien de temps on pouvait être traité sous TISABRI. Est-ce qu'à la suite de ça, elle pourra avoir un autre traitement éventuellement et, est-ce que vous avez du recul par rapport à ce médicament?
Peut-être parler de la dame, de la pianiste.
Vous voulez parler de la pianiste?
Donc, ça nous fait sourire parce qu'en fait, on peut parler de votre amie. Je pense que ça ne va pas vous gêner. Donc, moi, je n'ai pas vu la vidéo parce que je faisais un autre topo en même temps que mes collègues de Périgueux qui ont présenté ce topo à Paris il y a un mois. Donc, cette dame était donc pianiste et très gênée. Et depuis qu'elle a le TISABRI, elle rejoue du piano et ils ont fait un film sur elle et ça passe un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous faisait sourire.
Oui, parce que ça montre que c'est un traitement efficace. Alors, à l'heure actuelle, on part sur un traitement à très long terme. Quand on dit à très long terme, c'est à vie. Mais la vie en matière de médicaments, elle est très brève, puisqu'il y a des progrès thérapeutiques extrêmement... important dans cette maladie. Donc quand on commence le TISABRI, eh bien, on part sur un contrat extrêmement long dans l'état actuel de nos connaissances. De toute façon, c'est un traitement qui est très bien supporté. Si votre amie là, elle peut très bien vous le dire, il n'y a pas d'effet secondaire immédiat. Il peut y avoir éventuellement des réactions allergiques généralement qui se produisent à la deuxième cure qui oblige à l'arrêt du traitement. Et dans un certain nombre de cas extrêmement rares, on ne réagit pas au produit parce qu'on a développé des anticorps. Mais tout ça, c'est très rare. Le seul risque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un risque d'infection cérébrale qui est de l'ordre de 1 pour 8000 ou 1 pour 10000. C'est important de le dire, mais il faut savoir que le risque de 1 pour 10000, c'est le risque qu'on a de recevoir un avion sur la tête. C'est le risque qu'on a d'être fulguré, c'est-à-dire recevoir d'être électrocuté par un éclair, etc. Donc c'est un risque qui existe, mais qui est vraiment mineur. Et on a des traitements contre cet éventuel effet secondaire. J'ai répondu parce qu'on ne voit pas votre visage. D'accord.
Sur la prise en charge de la mitoxantrone, vous avez évoqué tout à l'heure la mitoxantrone ou novantrone, la molécule. Est-ce que c'est toujours limité dans le temps, au niveau du nombre de fois, ou est-ce que vous avez un spectre beaucoup plus large?
Le TISABRI, on peut le donner ad vitam aeternam tous les mois. On n'a aucune dose cumulative. Il y a deux produits pour lesquels on a une dose cumulative. C'est effectivement la novantrone, où on n'a pas le droit de donner plus de 120 grammes. Et puis l'andoxan. Alors pourquoi? Eh bien parce que pour ce qui concerne la novantrone, si on en donne trop, on a des risques de toxicité au niveau du myocarde. Pour l'andoxan, si on en donne trop, on a éventuellement des risques vésicaux ou d'autres risques, donc cardiaques notamment. Donc si vous voulez, on sait que si on reste en dessous de ce seuil et si on a pris des précautions, si vous avez eu de la novantrone, vous avez forcément eu une prise de sang avant l'introduction du médicament, vous avez forcément eu une échographie cardiaque avant, etc. Pour bien vérifier tout ça, c'est sain, qu'il n'y a pas d'anomalie cardiaque. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut y aller de 6 cures à 20 mg, ce qui fait 120 mg. Voilà, mais dose cumulative, oui. Alors, excusez-moi, j'ai pas tout à fait. Il y a quand même eu des essais qui ont poursuivi le traitement à des, non plus à des intervalles de 1 mois, mais à des intervalles de 3 mois. Donc, on a quand même une marge de sécurité. Mais nous, autant on peut reprendre un petit peu d'indoxan, autant la novantrone, on préfère pas.
Oui, vous avez répondu à ma question. En fait, vous continuez par l'andoxan, vous n'avez pas de nouveaux médicaments en phase 3 ou 2 qui soient assimilés un peu à la novantrone.
Vous savez, à l'heure actuelle, je suis, je ne devrais pas dire ça, mais je suis un petit peu perdu dans la novantrone parce que globalement, il y a un très fort recoupement avec le tisabri. C'est à peu près les mêmes indications. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on prescrira beaucoup plus de tisabri que de novantrone. On a prescrit novantrone chez un patient récemment parce que c'était vraiment une attaque gravissime et majeure de la maladie, première attaque. Donc là, on a préféré, mais dans la majorité des cas, ça commence doucement, entre guillemets, et on préfère donner du tisabri. Vous avez une question là, ici.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre la douleur et la fatigue? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des choses à faire?
Alors, pour la fatigue, il y a un certain nombre de médicaments. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a 4 ou 5. Un point important pour lutter contre la fatigue, c'est ce qu'on appelle le réapprentissage à l'effort et le fractionnement de l'effort. C'est-à-dire qu'il faut réserver des temps de repos et des temps d'activité fortes. Et puis, dans les médicaments, on a par exemple ce qu'on appelle le Mantadix, on a le Modiodal, on a des antidépresseurs. Non pas parce que les patients sont déprimés, mais parce que ça joue sur les molécules de la fatigue. On a ce qu'on appelle le 3,4-diaminopyridine, bien que ce soit de prescription plus facile. Enfin, on a un certain nombre de médicaments. Pour ce qui concerne la douleur, il faut bien analyser la douleur, c'est-à-dire savoir si c'est quel est le type de la douleur. Il y a des douleurs qui sont comme des décharges électriques, des courants. Dans ces cas-là, ce sera plutôt type antiépileptique. Il y a des douleurs qui sont plutôt des douleurs continues, comme des brûlures extrêmement lancinantes, et seront plutôt ce qu'on appelle, c'est dans les gammes des antidépresseurs, la roxy, la mitriptyline, etc. Et puis, il faut aussi voir la cause de la douleur. Quelquefois, on a peut-être tendance à trop se précipiter vers un médicament, et puis la douleur est liée à une malposition dans la chaussure, la douleur est liée à une infection X ou Y, à un ongle incarné, à je ne sais pas quoi. Donc, il faut essayer d'analyser l'origine de la douleur avant de la traiter.
Mais il ne faut pas avoir d'atteinte hépatique.
Par rapport à l'atteinte hépatique, si vous voulez, tous les médicaments qu'on prescrit sont des traitements efficaces, a priori, dont aucun n'est dépourvu d'effets secondaires. Parmi les effets secondaires de tous les traitements dont je vous ai parlé, il y a toujours des atteintes hépatiques. Par exemple, les interférons, il faut surveiller le foie, etc., etc. Donc, on le sait, c'est un faible pourcentage. Donc, s'il y a une atteinte hépatique au paracétamol, eh bien, on utilisera un autre produit. On ne peut pas avoir une atteinte hépatique à tous les produits. Si vous faites ci de la tête, bon. Alors, il y a des gens qui ont des atteintes hépatiques à tous les produits, où ça peut arriver, mais...
Non, mais quand il y a une atteinte hépatique, mais on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. Et apparemment, on serait assez nombreux. Enfin, peut-être pas très nombreux, mais... on est quelques-uns ou quelques-unes à être traités, même au CHU, par Madame Sylvain, par exemple. Il faut lui en parler.
Alors, il y a plusieurs points, si vous voulez. D'abord, il y a atteinte hépatique et atteinte hépatique. Lorsqu'on prend un traitement par interféron, ça peut faire monter les enzymes de manière durable, mais pour autant, le foie ne risque rien. Ensuite, il y a... La sclérose en plaques, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un développement, ça pouvait être un développement des anticorps contre son système nerveux. Je ne sais pas si vous rappelez que j'ai dit ça. Donc, lorsqu'il y a un bouleversement comme ça auto-immun, on peut très bien en même temps, et on suit un certain nombre de patients qui ont plusieurs maladies auto-immunes en même temps. Et effectivement, vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai des patients communs avec l'équipe d'hépato-gastro-entérologie du CHU parce qu'ils ont une hépatite auto-immune et parce qu'ils ont une sclérose en plaques. Donc, en ce sens-là, oui. Mais le fait d'avoir cette maladie du foie associée, ça va nous interdire un certain nombre de médicaments. Et vous avez aussi raison. Voilà. Mais tous nos médicaments ne donnent pas une atteinte du foie. Il peut y avoir un autre... mais c'est vrai.
Bonjour. moi j'ai une question à poser, mais c'est un peu délicat. Je voudrais savoir si vous, monsieur No ou madame Moineau, vous avez dans les symptômes dont les gens vous parlent, des symptômes qui s'apparenteraient à des problèmes de libido. Qu'en est-il de la sexualité des gens qui ont de la sclérose en plaques? Et est-ce que ces problèmes de libido, s'ils existent réellement, puisqu'on ne sait pas, puisqu'on n'en parle jamais, seraient liés à la fatigue, à un problème musculaire, à des fourmillements dans des zones vaginales ou au niveau du muscle, je ne sais plus comment on appelle, du périnée, enfin, etc., etc. J'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus, parce que la... Quand j'ai été hospitalisée, on avait rempli, à ce moment-là, on remplissait un formulaire pour ces problèmes de libido et je n'ai jamais vu de résultat. Et je pense que les problèmes de libido sont importants puisque c'est le plaisir de la vie. Et en plus, on est malade si en plus on ne peut pas savoir, en savoir un peu plus là-dessus et pouvoir en parler.
Nathalie va répondre
pour en parler avec les conjoints et tout ça. Voilà.
C'est vrai que cette question, elle est souvent amenée et posée. Donc, dans notre échelle multidisciplinaire, on travaille de plus en plus avec la rééducation. On fait même des consultations communes. J'ai une consoeur qui travaille aussi en rééducation avec qui on travaille. Et c'est vrai que que ce soit Madame Delubier, Madame Guillou, répond plus à ce genre de questions. Ça aussi, je veux dire, au niveau infirmier, c'est en train de se développer, puisque à un autre symposium, nous avons donc travaillé avec, sur toutes ces questions avec un sexologue. Donc voilà, oui, ces questions elles sont abordées et commencent à être abordées de plus en plus.
Vous avez partiellement répondu à la question parce que vous avez soulevé un certain nombre de points. D'abord, il y a les problèmes inhérents à la maladie en elle-même. Donc chez les hommes, ça va entraîner des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation. Chez la femme, ça va entraîner essentiellement une sécheresse. Dans ces cas-là, pour chacun des deux types d'atteintes chez l'homme et chez la femme, on a des traitements possibles. Pour l'homme, il y a les médicaments que tout le monde connaît, il y a éventuellement des injections intracaverneuses qui donnent des résultats satisfaisants. Pour la femme, c'est essentiellement des ovules lubrificatrices, etc. Donc ça, c'est un premier point. On a des médicaments spécifiques comme on a des médicaments pour la douleur, pour le sommeil, pour tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est possible. Le deuxième point, c'est aussi, et vous l'avez très bien dit, c'est l'envie et la dépression qui peut être en rapport avec la maladie, qui fait qu'on n'a pas envie, qui fait qu'on est fatigué. Dans ces cas-là, il faut qu'on essaye de donner des traitements contre ça. Et puis dans d'autres cas, c'est l'atteinte liée aux structures elles-mêmes médulaires de la moelle épinière responsable de l'érection, responsable de la sécrétion. Et dans ces cas-là, on peut éventuellement espérer que le traitement améliorant certains symptômes, ça améliore. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème, une réponse. Ça, c'est sûr. Mais ça fait partie des choses possibles. Et ce n'est pas abordé systématiquement en consultation, mais de plus en plus. Et puis les gens en parlent de plus en plus facilement. Et comme le dit Nathalie Moineau, on a derrière des équipes qui peuvent répondre à ces problèmes-là, médicalement. À la fois des rééducateurs, des psychologues, des choses comme ça. Enfin, des soignants comme ça. Mais c'est très fréquent, c'est 25% à peu près. Hein. Très fréquent.
Merci. Bon, écoutez, on va être obligé d'arrêter là les questions. Malheureusement, parce qu'on va manquer de temps. Donc j'espère que vous êtes satisfaits, que malgré tout, ils ont répondu à plein de questions que vous vous posez, ça je comprends parfaitement. On se retrouve à la sortie, on va boire un verre ensemble et vous pourrez encore éventuellement poser une ou deux questions d'un parté professeur nous aussi, puisqu'il reste avec nous. Donc voilà, donc je vous remercie encore à tous d'être venus. Merci.